Je cède la parole donc à Sophie Desraux, donc archivispaléographe, chargée de collection numérique au service du dépôt légal numérique, département du dépôt légal de la Bibliothèque nationale, pour nous parler plus spécifiquement donc de l'archivage de l'Internet, notamment à travers la campagne en fait d'archivage des élections 2012, notamment en partenariat avec...
Je passe directement des manuscrits à l'Internet. Hop. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose qui n'est pas encore totalement évident d'être considéré comme un patrimoine, qui est donc Internet, qui est quand même né dans les années 90 et qui est encore en ligne aujourd'hui. Donc, on peut se dire, oui, c'est bon, l'auto-archivage en ligne, tout marche bien. Et en fait, ce n'est pas vraiment le cas. Je vais vous présenter ce que nous faisons à la Bibliothèque nationale, qui est le dépôt légal de l'Internet. Il faut savoir que en France, le dépôt légal est une prérogative de très rares institutions, et pour le dépôt légal de l'Internet, ça concerne particulièrement la Bibliothèque nationale. Donc je vais d'abord vous présenter en gros comment est-ce que ça s'organise et comment est-ce que techniquement ça marche à la bibliothèque. Ensuite, je vous montrerai quelques exemples de ce qu'il y a dans nos collections et comment est-ce de quoi elles sont constituées et comment est-ce qu'on les a constituées. Et je finirai par nos entreprises de communication et de valorisation. Alors, tout d'abord, il faut savoir que le dépôt légal est une obligation légale, c'est une sorte de taxe. Elle a été mise en place par ce bon roi François Ier en 1537. Et c'est dans sa droite ligne que l'Internet a été inscrite à la longue liste des documents nécessitant un dépôt légal. L'Internet a été inscrit dans le Code du patrimoine par la loi DAFSI en 2006, donc la loi sur les droits d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information. Cette loi de 2006 s'est vue complétée par un décret d'application seulement en décembre 2011. Donc par là, ce qui est important de noter, c'est que le dépôt légal de l'Internet s'inscrit exactement dans le même contexte législatif que les autres documents de dépôt légal. Donc par exemple les monographies, les périodiques, les logiciels, etc. Deux institutions sont déclarées dépositaires par la loi. D'une part l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, qui s'occupe des objets en ligne qui correspondent en fait à sa mission traditionnelle, c'est-à-dire en gros les sites qui concernent l'audiovisuel, la radio, la télévision. Ça fait, pour vous donner une idée, à peu près 8000 sites. Et tout le reste, c'est pour la BNF. Ce qui en fait nécessite ce qui signifie tout le reste, enfin, l'objet visé, parce que c'est facile de dire l'Internet, mais savoir ce que ça signifie. Alors la loi utilise très précisément l'expression suivante. Sont concernés les signes, signaux, écrits, sons ou messages de toute nature qui font l'objet d'une communication au public par voie électronique. Ne vous inquiétez pas, c'est volontairement flou. En effet, il s'agit pour la loi d'être très large afin de ne pas se trouver dépassé très rapidement par les projets technologiques. Si on avait dit Internet, Web, eh bien, en 2006, par exemple, les applications n'étaient pas vraiment au goût du jour, donc elles ne seraient pas tombées sous le coup de la loi. Donc en fait, cette définition volontairement floue était destinée à être pérenne, en fait. Ensuite, le dépôt légal traditionnel concerne normalement toute la production intellectuelle qui est publiée sur le territoire, et notamment celle qui est importée sur le territoire français. Alors évidemment, si on avait strictement appliqué ça à l'Internet, on se trouve devant une difficulté flagrante qui est celle de la quantité, puisque ça signifie que tout l'Internet est concerné. Alors évidemment, c'est pas trop possible. Il a donc été défini une notion d'Internet français. Alors, l'Internet français est équivalent au site en .fr, c'est-à-dire ceux qui sont déclarés à l'AFNIC, qui est l'association qui gère les noms de domaine en .fr. Les sites qui sont hors .fr, donc .com, .org, tout ce que vous voulez, mais dont les auteurs sont domiciliés en France. Et enfin, les sites qui sont produits en France. Donc, à partir de ces différents critères, a été défini un Internet français, ce qui aide déjà à délimiter les contours de ce qui est visé. Ensuite, il y a une notion qu'il est important de noter parce qu'elle contraste vraiment avec le dépôt légal traditionnel, qui est que ce n'est pas vraiment un dépôt, en fait. Il y a une inversion du rapport entre l'éditeur et l'institution dépositaire. C'est-à-dire que dans le dépôt légal traditionnel, les éditeurs envoient, il y a une franchise postale, ils envoient leurs ouvrages par la poste à la bibliothèque. Dans le cas de l'Internet, en fait, c'est la bibliothèque qui collecte les contenus. Les producteurs de sites n'ont rien à faire, si ce n'est ne pas bloquer le robot de la BNF et éventuellement donner les mots de passe ou surtout les informations techniques qui permettraient une meilleure collecte ou une collecte correcte au moins de leur site web. Donc, normalement, ils n'ont rien à faire. Et enfin, une notion également importante et en contraste tout autant avec le dépôt légal traditionnel, qui est celle de la représentativité. Donc, comme je vous l'ai dit, collecter tout l'Internet, ce n'était pas possible. Connecter tout l'Internet français, même, ce n'est pas possible parce que ça signifierait qu'on collecte chaque renouvellement de chaque site. Vous imaginez que c'est un petit peu compliqué. Donc, dans le dépôt légal traditionnel, l'idéal, parce que ça reste quand même un idéal, c'est l'exhaustivité. Ça a été abandonné en ce qui concerne le dépôt légal de l'Internet, et on s'est plutôt concentré sur la représentativité. Je vais revenir dessus d'ailleurs quand je parlerai des collections. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend ? Techniquement. Je ne vais pas rentrer dans les détails trop techniques, ne vous inquiétez pas, je ne veux pas vous faire peur, mais en fait, on s'y prend avec des robots de collecte, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui enregistrons et qui copions-collons chaque page. Nous avons des logiciels qui font ça pour nous. Ce sont des petits logiciels qui, en fait, parcourent le web de lien en lien à partir d'une liste d'URL qu'on leur donne et qui, en fait, comme des internautes automatiques, cliquent sur tous les contenus et copient ces contenus. Évidemment, il faut que ces contenus rentrent dans le périmètre qui leur a été défini au début, mais en gros, c'est comme ça que ça marche. Donc, ces petits robots, actuellement, on en a une grosse quarantaine, ont quand même jusqu'ici, comme je vous l'ai mis, collecté plus de 370 téra de données depuis le début. Donc, on a des expérimentations qui ont commencé dès 2002. Et pour vous donner une idée des quantités, en 2012, ce sont 90 téra de données qui ont été collectées. En fait, ce n'est pas grand-chose. Alors là, vous avez une jolie petite image de robot qui est très pratique dans une présentation parce qu'elle est parlante, mais le robot, en vrai, il ressemble à ça. Je vous ai mis ça parce que c'est assez parlant, c'est ce que nous, on surveille, en fait, quand le robot fonctionne. Donc évidemment, on est un peu loin des jolis livres d'heures.
On est sur la presse ancienne. On peut être sur la presse. Hein,
on peut. Bah là, on est sur la presse. Là, on est sur la presse. À gauche, vous avez ce qui est capital, c'est gauche. Vous avez ce qui est capital, c'est la date et l'heure exacte de collecte. Je reviendrai dessus. Au milieu, il y a la réponse du serveur, donc 200 si la page est là, 404 s'il y a une erreur. C'est les codes réponses que vous pouvez avoir sur votre navigateur. Et tout ce qui se trouve à droite, ce sont les URL par lesquelles le robot passe et que le robot collecte. Donc, sur chaque page Internet, chaque élément de la page a une URL. Donc, c'est pour ça que ça paraît un peu fouillis. Une fois collectées, que fait-on de ces données ? Alors, elles ont deux destinations. Dans un premier temps, elles sont stockées sur des disques durs, dont vous avez un exemple à gauche. Pourquoi des disques durs ? C'est parce que une donnée stockée sur un disque dur est très rapide à l'accès. Le disque dur répond facilement et vite. Donc on utilise ces disques durs pour l'accès, dont je vous parlerai plus tard. Et à droite, ce sont des bandes magnétiques. Alors, ça peut faire très rétro, mais en fait, la bande magnétique permet une conservation sur le long terme bien meilleure et beaucoup plus stable. Donc toutes ces bandes magnétiques sont gérées au sein d'un système de préservation et d'archivage réparti, SPAR, le système d'archivage de la BNF, qui est pensé pour qui est une sorte de magasin numérique qui est pensé pour gérer sur le très long terme des données numériques. Pourquoi très long terme ? Parce que ces données qui rentrent par le dépôt légal, nous n'avons pas le droit de les supprimer. Comme nous n'avons pas le droit de désherber les livres qui rentrent par dépôt légal à la bibliothèque, Là, c'est pareil. Ces données rentrent à la bibliothèque et doivent y rester. C'est le principe du dépôt légal. Qui fait quoi ? Alors, à la bibliothèque, il y a trois sortes de personnels qui sont touchés par le dépôt légal de l'Internet. D'une part, des bibliothécaires. Nous avons un réseau de plus de 80 bibliothécaires disséminés dans la grande majorité des départements thématiques et spécialisés de la bibliothèque. Qu'est-ce qu'ils font ? Je vous en parlerai un petit peu après. Il y a nous. Nous sommes 5 dans l'équipe du dépôt légal numérique. Nous sommes des bibliothécaires, mais nous savons aussi parler à l'informaticien qui se trouve tout en bas. Donc en fait, nous occupons une position d'intermédiaire entre les bibliothécaires et l'informaticien, puisque comme on l'a fait remarquer tout à l'heure, l'informaticien ne parle pas toujours le bibliothécaire. Mais cela dit, les informaticiens qui sont essentiellement des ingénieurs de production et des développeurs sont absolument... Enfin, ont un rôle évidemment absolument capital sur l'infrastructure technique et sur les instructions qui peuvent être menées à propos des sites ou à propos des applications que nous utilisons. Mais nous avons également, avec grand bonheur, des partenaires à l'extérieur de la bibliothèque, alors notamment au niveau national. Donc il a été fait référence à nos partenariats avec les BDLI. Donc comme vous le savez, il y a une BDLI par région. Donc, par exemple, au hasard, Poitiers. Nous sommes très heureux d'avoir leur coopération sur certains projets phares. Je vais vous citer notamment le projet des élections, auquel il a déjà été fait référence. En 2012, 20 BDLI sur 26 ont été volontaires pour nous seconder sur le projet, nous aider, même pas, c'est même pas un rôle secondaire. Nous aider sur le projet des élections 2012 et qui avait un rôle, CBDLI avait un rôle vraiment capital. Il y a comme projet d'ouvrir la sélection des URL de manière plus courante et sur le plus long terme à des BDLI sur la base du volontariat à chaque fois pour par exemple des collectes régulières sur le web local que nous avons un peu plus de mal à envisager. À côté de ces BDLI, nous travaillons également avec des associations, comme l'Association pour l'autobiographie, qui nous aide pour la collecte des journaux personnels en ligne, qui fait l'objet d'un corpus particulier, mais également des chercheurs et leurs institutions. Donc je mentionnerai Sciences Po Paris, par exemple, qui nous a aidés, avec laquelle on a été en dialogue sur les dernières élections, ou bien un laboratoire de recherche de Grenoble avec lequel on a travaillé pour la collecte des Jeux Olympiques cet été, des Jeux Olympiques et Paralympiques d'ailleurs. Et au niveau international, la BNF fait partie d'un consortium de préservation d'Internet qui regroupe des bibliothèques nationales, mais aussi des archives, des bibliothèques universitaires, et qui forme un réseau très serré au niveau international, sur quasiment tous les continents, chaque bibliothèque préservant plus ou moins son web national. Et il était assez évident que le web étant quand même un objet avant tout international, nous cherchions à nous regrouper pour mettre en valeur ou dialoguer sur certains outils, notamment techniques, ou sur certaines collections. Donc je vous ai parlé des bibliothécaires, de notre réseau de bibliothécaires. Il faut savoir que nous avons deux modes d'entrée pour les URL. Tout à l'heure, je vous ai dit que le robot, comme point de départ, avait une liste d'URL. Alors, d'où viennent ces URL ? Elles peuvent venir de deux filières. D'une part, ce qu'on appelle, nous, les collectes larges. Alors, qu'est-ce qu'une collecte large ? Une collecte large, c'est un échantillon annuel du domaine français. C'est-à-dire ce domaine français qui est en général constitué de la totalité du .fr qui nous est donné par la FNIC, donc la totalité des noms des sites en .fr, le .re de la même manière, et cette année nous avions également le .nc pour la Nouvelle-Calédonie.
RE pour Réunion, hein, c'est la Réunion.
Ah oui, pardon, RE pour Réunion, oui. On a aussi les .tf pour l'État français. Et donc en fait tous ces sites, bon, ça fait à peu près 2,5 millions quand même, sont capturés une fois par an de manière superficielle mais suffisante pour la compréhension. Cela forme une sorte d'instantané du web français à un moment. On essaye de faire que cette collecte large soit relativement restreinte. Donc cette année, elle a pris 2 mois et demi, de façon à ce qu'elle soit cohérente, qu'on ait les mêmes sites à peu près au même moment. Alors actuellement, notre nombre de collectes larges se monte à 8. Donc voilà. Et à côté de ces collectes larges, quelque part, les collectes larges correspondent réellement à ce qu'on entend par le dépôt légal, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de choix, on prend tout. Tout le .fr. On ne fait pas de choix de tel site intéressant, tel site n'est pas, tel site n'a pas été renouvelé il y a longtemps, mais on le prend quand même, on ne sait pas. On prend tout. Donc c'est vraiment l'idée qu'il y a derrière le dépôt légal d'avoir une représentation de la production éditoriale française à un moment. À côté, nous avons quelque chose de plus approfondi qui permet de ne pas laisser échapper des contenus qui sont plus difficiles à collecter ou qui demandent une collecte plus régulière, qu'on appelle des collectes ciblées. C'est-à-dire, c'est un nombre de sites qui a été repéré par des bibliothécaires, les 80 dont je vous parlais. Ils se montent à 31 000 aujourd'hui et qui sont collectés à fréquence beaucoup plus rapprochée. Donc ça va de une fois par jour à une fois par an ou deux fois par an. Et en général, de manière plus approfondie, parce que certains sites sont beaucoup trop gros pour être collectés en entier dans la collecte large et ils perdent. On perd du contenu, donc on les collecte de cette manière. Et enfin, dans nos collections se trouvent également, en plus donc de tous ces sites qui rentrent de manière vivante, de manière continue, des acquisitions rétrospectives qui ont été faites auprès de la fondation Internet Archive, que vous connaissez peut-être, qui a des collections visibles en ligne. Donc nous avons acquis leur collection française entre 1996 et 2005 afin d'enrichir les nôtres. Et donc comme on a commencé qu'à collecter qu'en 2002, mais nos archives remontent quand même jusqu'à 1996 pour certains sites. Le dépôt légal s'inscrit désormais dans la politique documentaire de l'établissement. Puisqu'il commence à réellement être pris en compte comme étant un aspect documentaire des collections vraiment de l'établissement. D'une part, il rentrera à ce titre, dans une large part même, dans la charte documentaire qui est en train d'être rédigée, la nouvelle charte documentaire de l'établissement, de la BNF. Donc chaque département faisant du dépôt légal de l'Internet aura un paragraphe précis expliquant la manière dont il considère le dépôt légal de l'Internet comme complétant ses collections. Et d'autre part, pourquoi une inscription vraiment prépondérante dans la politique documentaire ? C'est parce que les bibliothécaires ont assez rapidement considéré et compris que les collections tirées de l'Internet pouvaient compléter documenter et même continuer les collections traditionnelles en quelque sorte qui étaient conservées par la bibliothèque dans leur collection. J'ai mis un exemple qui est celui du fonds Roger Planchon qui a été versé en 2006. Alors Roger Planchon est un metteur en scène et un acteur et le directeur qui a été un temps le directeur du Théâtre National Populaire. Il a versé son fonds au département des arts du spectacle en 2006. Donc c'est un fonds d'archives essentiellement, mais de photos également, de documentation sur les mises en scène, qui est très intéressant, dont une partie a été mise en ligne sur Gallica. Par exemple, la photo que vous avez ici, c'est une photo de mise en scène que j'ai tirée de Gallica. Et en fait, le département des arts du spectacle a voulu continuer un petit peu une sorte de documentation rétrospective de ce fonds en insérant dans sa collecte des sites qui correspondaient à ce fonds. Donc, je vous ai mis, donc toutes les captures d'écran de sites que vous allez voir sont tirées des archives. Quand il y a un bandeau orange en haut, c'est archives. Donc, par exemple, ici, je vous ai mis un exemple du site du Théâtre National Populaire, donc sa page sur Roger Planchon. Ça c'est un exemple de continuation d'un fonds d'archives, mais on pourrait également citer tout ce qui concerne la presse quotidienne régionale qui n'entre plus à la bibliothèque pour des raisons techniques et pour des raisons de faisabilité et qui se trouve continuée par les les exemplaires en ligne que nous collectons. Par exemple, je pense à Ouest France, on n'entre que l'édition principale en papier, et les 52 autres éditions régionales rentrent par versement numérique. Donc on va les collecter directement sur l'interface du site. Donc en fait, tout l'objet de l'organisation dont je viens de vous parler est d'éviter un trou de mémoire numérique, parce que il ne faudrait surtout pas penser que Internet est quelque chose qui reste, et que quand vous créez un site, il reste en ligne comme ça dans l'Internet. Je pense qu'on a tous fait l'expérience du marque-page dans notre navigateur préféré qui renvoyait sur une erreur 404 au bout d'un certain temps. C'est extrêmement frustrant. Et ça montre bien à quel point ce n'est pas parce qu'Internet est un média très jeune qu'il n'en est pas moins un média à conserver. Donc en fait, notre objectif, c'est de constituer une archive qui soit à la fois cohérente et utilisable, et qui soit surtout représentative de ce qu'est l'Internet français. Je vais vous présenter rapidement comment et selon quels axes sont constituées nos collections. Mais ce qui est important pour nous, c'est de ménager la dichotomie entre, d'un côté, ce qui fait réellement la spécificité d'Internet, de certaines choses qui n'existent que sur Internet, puisqu'il y a certaines choses qui n'ont absolument aucun parallèle avec la vie réelle, pourrait-on dire. Mais d'un autre côté, voir comment Internet continue, les autres collections conservées par la BNF continuent, enfin, qu'il y a une transposition en ligne de certains médias. Parce que c'est ça qui est intéressant également. À cette dichotomie s'ajoute une nécessaire temporalité des archives, puisque vous vous en doutez bien que l'Internet de 1996 est un petit peu différent de l'Internet de 2012. Et que donc, Internet étant désormais un objet historique, il faut absolument remettre une temporalité dans l'archive. Donc, nous avons des sites de référence. Donc ici, vous avez un exemplaire de l'interface de ALSHS qui a un peu changé depuis en 2006. Donc, à chaque fois, les liens sont cliquables et la plupart du temps, il y a les documents derrière. Mais nous avons également des sites officiels. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu. Nous avons ce qui a été supprimé depuis, par exemple, le site de l'Élysée sous Nicolas Sarkozy, qui a totalement été gommé par la nouvelle équipe. Mais nous n'avons pas que le site de l'Élysée de Nicolas Sarkozy, nous avons celle d'avant également. Donc, puisque nous nous efforçons d'archiver très régulièrement les principaux sites officiels des ministères, de Matignon, etc. Nous avons également des sites d'actualité. Donc là, je vous ai mis deux exemples parmi les 90 titres dont nous collectons la une tous les jours. Donc Rue 89, qui est un pure player. Donc typiquement, c'est l'exemple qui n'existe pas en papier. Et Sud-Ouest, qui est de la PQR, qui a évidemment une édition papier à côté. Nous collectons également des sites liés à un événement de manière assez flagrante. Ce sont typiquement le genre de site, comme je vais vous le montrer, qui est éphémère, puisque donc là, vous avez le site du comité de soutien dans les Bouches-du-Rhône de Dominique Strauss-Kahn le 19 mai 2011, qui évidemment, quelques mois après, n'existe plus. Donc ça, c'est l'exemple flagrant, mais qui montre bien à quel point les contenus disparaissent facilement et rapidement sur Internet. Ces sites liés à des événements forment des corpus en général à chaque fois. Donc là, les élections, de manière indirecte. Mais nous avons également eu le printemps arabe, les Jeux olympiques, etc. Ces sites peuvent également être liés à des corpus. Il en existe plusieurs, je ne vais pas tous vous les détailler ici, mais en général, ils correspondent à des classifications variables, ou par type d'émetteur, ou par modèle éditorial, par origine géographique, etc. Je reviendrai un petit peu là-dessus plus tard. Mais nous avons également tout ce qui fait des sites qui font le charme de l'Internet tel que nous le connaissons aujourd'hui. Donc, par exemple, des jeux en flash. Ici, vous pouvez, dans les archives, éplucher votre patate le plus vite possible. Mais nous avons aussi des Tumblr, de GIF animés, Nous avons fait une collecte en janvier d'un bon échantillon de Tumblr qui ont fait le charme de l'année 2012. Et nous avons des lolcats. Alors, ça peut évidemment paraître un petit peu anecdotique. Cependant, en fait, en termes de représentativité, si on ne collectait que le web sérieux et académique et reconnu, on passerait quand même à côté de ce qui fait Internet et on produirait en fait une archive qui, à notre avis, serait quand même extrêmement faussée pour un chercheur qui, dans une centaine d'années, regarderait nos archives et se dirait « Mon Dieu, qu'ils étaient sérieux en 2012 !» Mais donc, voilà. C'est pour ça que l'on s'efforce de collecter un peu de tout. Donc, notre archive concerne à la fois tous les types de contenus, mais également toutes les formes de publications. Toutes les formes de publications. Donc, je vous en ai mis quelques exemples, sachant qu'on pourrait continuer encore quasiment à l'infini. Ici, il s'agit d'un rapport que la loi oblige. La loi oblige les entreprises à rendre public certains rapports sur leur site. Donc, nous les collectons. Ici, c'est du PDF. Le PDF passe très bien en général dans les archives. Mais également, nous collectons des nouvelles formes d'édition, en fait. Donc ici, alors je ne sais pas si ça va marcher. Ah oui, bon, d'accord, ça ne marche pas. Tant pis. Donc vous pourrez aller voir en ligne, parce que pour le coup, le site existe toujours. Je vous le conseille, c'est assez joli. Ça s'appelle pertedetemps.com. En fait, c'est une mise en animation flash. Non, ça a l'air rigolo, mais en fait, ça ne l'est pas. C'est très sérieux. C'est une mise en animation.
D'inciter à aller sur un site perte de temps.
en fait, c'est une mise en animation d'un poème de Baudelaire que nous devons avoir en multiples exemplaires papier dans les collections et dans les magasins. Mais là, il y a toute une mise en animation au fur et à mesure du poème qui est extrêmement bien faite avec de la musique. Et donc, ça, évidemment, ça fait un bon parallèle à des éditions papier qu'on pourrait avoir par ailleurs. Nous avons également tout un tas de contenus multimédia. Donc ici, je vous ai pris comme exemple la plateforme Dailymotion. On arrive bien à collecter Dailymotion, contrairement à des plateformes comme YouTube ou Vimeo, qui sont plus délicates, sur lesquelles on travaille, mais qui sont plus délicates. Il faut savoir que la vidéo est difficile à collecter en ligne. Beaucoup de place également, mais ça c'est un autre problème. Et nous avons des profils publics de réseaux sociaux. J'insiste sur le public. Nous ne demandons pas les mots de passe pour aller collecter les profils privés, ça, pas du tout. Donc ici, c'est deux profils qui, l'un concernait les élections puisque c'est le profil d'Aline Hidalgo et l'autre beaucoup plus les Jeux Olympiques, c'est le profil d'Amaury Levaux sur Twitter. Il faut savoir que, encore plus même que les vidéos, les profils, les réseaux sociaux sont on a aussi des Pinterest, sont des choses très difficiles à collecter sur le long terme parce qu'ils changent de modèle technique extrêmement souvent, sans nous prévenir. Et à chaque fois, il faut trouver exactement comment fonctionne le modèle, comment est-ce qu'on peut avoir le maximum d'informations. C'est pas toujours évident. Facebook, par exemple, a changé de modèle en plein milieu des élections. Comme on avait inséré des profils Facebook dans les élections, ça a été un petit peu l'urgence de trouver, mon Dieu, comment ça remarche, comment est-ce qu'on va y arriver. Donc ce changement de profil m'amène d'ailleurs à insister sur le temps dans l'archive, puisque mettre à disposition tout ce qu'on collecte n'aurait pas réellement de sens si on ne précisait pas comment est-ce que ça s'organise dans le temps. Donc ici, je vous ai mis en fait l'interface sur laquelle vous tombez quand vous cherchez l'URL d'un site. Donc ici, j'ai fait une recherche sur lemonde.fr et on arrive à un calendrier en fait. À chaque fois, vous pouvez cliquer sur une année et vous aurez le développement d'un calendrier annuel avec tous les mois et toutes les dates exactes des captures dont on dispose. Donc vous verrez qu'évidemment, à partir de 2011-2012, lemonde.fr est collecté beaucoup plus souvent puisque nous avons mis en place la collecte des sites d'actualité. Et en fait, donc cette chronologie est capitale pour la pertinence de l'objet qu'on est en train de regarder. Et ici, je vous ai mis plusieurs exemples qui vont être très parlants. Donc Le Monde, le 9 novembre 2010, la une, bon, qui n'est pas tout à fait celle d'aujourd'hui, vous remarquerez. Celle du 19 mars 2003, ça devient encore un peu plus rétro. Et alors là, c'est notre première archive du Monde qui date de juin 1997. Donc, Internet était vraiment différent en 1997. Donc, voilà. Et enfin, je passe au sujet de la communication et de la valorisation des archives du web ou des archives de l'Internet, aurais-je dire, qui est capitale, d'une part parce que la communication, de toute façon, de ces archives entrées par dépôt légal nous est rendue obligatoire par la loi. À partir du moment où on a collecté par dépôt légal, le public doit y avoir accès, ce qui est relativement normal. Et d'une part, la valorisation de ces archives, parce que vous comprendrez que ce sont des archives assez complètes et, comme le web, assez touffues, qui demandent une certaine valorisation afin de ne pas rester une collection silencieuse. Alors, d'une part, la communication. Alors, cette consultation se fait selon des critères qui pourront paraître assez stricts par rapport à Internet. On peut dire Internet est en ligne partout, donc... Et en fait, la consultation se fait de manière assez stricte, donc parce que ça fait un parallèle avec la grande liberté qui est laissée à la BnF pour collecter des contenus sur Internet. On n'est pas obligé de respecter les règles qui sont normalement posées aux robots quand on entre sur un site. On peut demander des mots de passe, etc. Donc ces collections sont, cet accès est assez strictement réglementé, notamment pour respecter le droit d'auteur, la propriété intellectuelle, mais également le droit à la vie privée et la protection des données personnelles. Vous avez vu qu'on collectait des profils de réseaux sociaux, par exemple, donc ce qui était public à un moment peut ne plus l'être à un autre moment. En fait, ces archives, il faut que je précise que ces conditions d'accès sont strictes, mais sont exactement les mêmes que pour les collections qui entrent par dépôt légal et qui sont physiques, papier. En fait, ces archives, donc on pourrait dire que ces archives sont grises, c'est-à-dire qu'elles ne sont ni complètement fermées, ni complètement ouvertes, mais elles sont en accès restreint, c'est-à-dire qu'il faut une accréditation obligatoire, ce qui signifie, en termes d'accès, les espaces recherche de la Bibliothèque nationale, donc tous les sites de la Bibliothèque nationale, mais uniquement l'espace recherche. Donc, par exemple, à Tolbiac, c'est le Rez-de-Jardin et pas le Haut-de-Jardin. Uniquement sur les postes de la bibliothèque, donc tous les postes du Rez-de-Jardin par exemple sont équipés de l'accès aux archives, mais le lecteur ne pourra pas avoir accès aux archives sur son poste à lui, ça c'est pas possible, c'est uniquement sur les postes de la bibliothèque. Nous avons en projet d'ouvrir la consultation aux BDLI volontaires, c'est-à-dire qu'en fait chaque BDLI volontaire aurait le même accès que celui qui existe dans les salles recherche.
Effectivement, un BDLI, bibliothèque dépôt légal imprimeur, donc une par région, donc déjà bien connu dans chaque région, puisque chaque imprimeur les imprimeurs doivent donner un exemplaire à cette BDLI de tout document imprimé par cet imprimeur. Donc effectivement, le statut est bien connu, mais c'est vrai que le partenariat avec les BDLI sera très important, notamment pour les élections.
C'est qu'on est parti du principe que d'abord limiter l'accès à Paris était un peu restreint, et ensuite, à partir du moment où les BDLI participent à l'enrichissement de ces archives, notamment avec la participation aux collectes d'élections pour le moment, mais à d'autres collectes potentiellement dans l'avenir, il était assez logique, il allait de soi, de leur donner un accès. Donc ce sera un accès qui aura les mêmes restrictions que l'accès à la BNF, c'est-à-dire sur les postes réservés par accréditation et uniquement sur les postes de la bibliothèque, mais ça évitera aux chercheurs qui travaillent sur l'Internet de venir obligatoirement à Paris.
En Poitou-Charentes, de venir à Poitiers.
Voilà, par exemple. pour l'instant, on a un projet qui est en œuvre avec 6 BDLI volontaires. On espère petit à petit l'ouvrir au reste des BDLI qui le voudront. Pour donner une idée, les consultations en salle chez nous, c'est à peu près 30 à 50 visites par mois. Donc ça paraît peu, mais récemment, on a constaté une augmentation des visites de navigation dans l'archive supérieure à une heure. Ce qui signifie que c'est une réelle utilisation des archives en mode recherche. C'est plutôt positif. Cette consultation se fait sur une interface dédiée, c'est-à-dire en gros un Firefox embarqué. Donc vous avez l'impression que vous êtes sur un Internet normal, hors le bandeau orange que vous avez pu voir sur certaines captures d'écran que je vous ai montrées. L'objectif étant que la navigation soit la plus proche possible de l'expérience utilisateur sur le web vivant. D'ailleurs, le robot se déclare non pas comme un robot, mais comme un navigateur, pour avoir l'affichage du site comme un navigateur normal. Donc, je vous ai mis ça, c'est la page d'accueil des archives. pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Alors, la recherche par mots, pour l'instant, est très expérimentale. On espère mettre de l'indexation plein texte en 2014. C'est quelque chose de compliqué. Pour l'instant, la recherche se fait essentiellement par URL. Donc, une fois que vous avez rentré dans votre URL, vous pouvez cliquer et ça vous donne la chronologie que vous ai montré tout à l'heure pour Le Monde. Ce logiciel, c'est la Wayback Machine d'Internet Archive. Vous en avez une version en ligne pour leur collection, à eux, qui est un petit peu similaire, que vous pouvez aller voir. Quelque chose qui se trouve sur cet écran fait une excellente transition vers la valorisation. Ce sont les parcours guidés que vous voyez en bas de l'écran. Qu'est-ce qu'un parcours guidé ? Un parcours guidé, c'est en fait une sélection de sites par des bibliothécaires selon un thème et qui est en fait une sorte de parcours dans les archives avec des exemples de sites particulièrement représentatifs et une capture à laquelle ils se réfèrent. Il y en a plusieurs aujourd'hui. On en a un sur les images amateurs, un sur la révolution tunisienne dont je vais vous reparler. Le web militant, il y en a un sur l'internet électoral jusqu'en 2007. Donc c'est une forme de valorisation, de médiation plus exactement, des bibliothécaires envers les utilisateurs des archives du web. D'autres formes de valorisation existent également. Des chercheurs travaillent sur des corpus définis. Nous sommes en règle générale en contact avec eux. Il faut savoir qu'en général, ces chercheurs qui travaillent sur l'objet Internet ont fait leur propre collecte des sites qui les intéressaient avec leurs outils et se servent des archives de la BNF comme support et comme repère parce qu'en général, ils ont des captures pour des sites juste à certains moments et ils voudraient justement les replacer dans un contexte temporel plus large. Et c'est là qu'interviennent nos archives qui forcément s'étendent sur un temps plus long. Les exemples les plus parlants et les plus poussés qu'on a eus sont sur le web électoral depuis 2007, mais également sur les Jeux Olympiques cette année, particulièrement sur Twitter. À côté de cela, se mettent en place des actions pédagogiques, particulièrement cette année, une action qui a été secondée par le département des arts du spectacle, oui, qui a été l'étude avec des terminales option théâtre de l'évolution du site personnel de Valère Novarina, qui est un auteur de théâtre contemporain, dont nous avons des archives qui remontent jusqu'à la fin des années 90. Donc les professeurs ont préparé, sont venus voir l'archive, sont venus voir les différents points d'évolution et ont travaillé dessus avec leurs élèves qui, en parallèle, étudiaient les pièces de Valère Novarina. On espère que ce genre d'action pédagogique va se multiplier. On va essayer d'accueillir ces élèves en salle pour qu'ils soient directement en contact de l'archive. Enfin, de manière plus évidente et quelque part plus traditionnelle, je vais vous citer comme exemple de valorisation l'insertion dans une exposition qui a été l'exemple de l'exposition sur la presse qui a eu lieu à la bibliothèque l'année dernière. C'était une grande exposition retraçant l'histoire de la presse, en gros de ses origines à nos jours. Et donc, au terme de l'exposition, au terme de son parcours dans l'exposition, le visiteur avait accès à une marguerite d'écran qui lui permettait de naviguer dans le parcours guidé sur les archives de la révolution tunisienne, qui est le deuxième là, en haut à droite, et qui en fait lui montrait des sites qui la plupart du temps avaient disparu et qui pourtant occupaient une place capitale dans l'histoire du peuple égyptien, puisque c'était à propos du printemps arabe. Alors vous allez me dire, oui, mais les sites égyptiens, ça ne rentre pas tout à fait dans le dépôt légal français. Et vous aurez raison. Cependant, la plupart de ces sites étaient en français et l'Égypte n'avait pas de dépôt légal. Et donc, ça a été décidé d'archiver ces sites qui, historiquement, prendraient sans doute une grande valeur, puisqu'ils étaient probablement à durée de vie très courte. Et donc la décision a été prise de faire une collecte sur ces sites. Les Égyptiens nous en ont remercié d'ailleurs depuis.
C'est aussi le partenariat entre la BNF et la Bibliothèque d'Alexandrie.
Oui, également.
Je pense qu'ils n'étaient pas en mesure effectivement de le faire, mais ça participe effectivement à la mémoire de la Bibliothèque d'Alexandrie.
Oui. Les Anglais ont fait la même chose d'ailleurs. Donc là, je vous ai mis juste un exemple d'une page Facebook qui d'ailleurs n'existe plus. Donc c'est typiquement le genre de cas. Pour finir, quelqu'un a dit tout à l'heure qu'un bon bibliothécaire pensait au signalement. Effectivement, nous aussi, puisque nous sommes des bibliothécaires, nous ne pouvons donc, comme vous avez compris, pas mettre nos collections en ligne. D'abord parce que ça ferait une pollution par rapport au site vivant, puisque quelquefois le site vivant existe, donc comment différencier l'archive et le site en ligne. Mais nous nous efforçons de signaler, de commencer à signaler nos archives. Alors d'une part, je peux vous citer l'exemple de data.gouv.fr, qui est la plateforme d'open data du gouvernement, sur laquelle nous avons mis, à l'occasion des élections de 2012, toutes nos données concernant toutes nos collectes électorales depuis 2002. Donc ça fait quand même 10 ans de collecte électorale. Donc vous avez tous les sites web que nous avons collectés, enfin, l'URL, et les paramètres techniques et les paramètres documentaires qui leur sont rattachés. Donc tous les sites web que nous avons collectés à chaque grand scrutin électoral depuis 2002. Donc ça fait un certain nombre de données, sous forme de données brutes, donc qui sont cherchables et utilisables par les chercheurs avec des logiciels. Et les archives du web vont également être signalées dans data.bnf.fr, qui est la plateforme documentaire aisément accessible par les robots de signalement de la bibliothèque. Donc voilà, nous nous efforçons de donner la plus grande visibilité à nos collections.
Merci beaucoup, Sophie. Il reste effectivement 5-7 minutes, effectivement, donc... Je pense qu'on n'aura pas le temps de revenir sur l'ensemble des communications, donc je vous propose de consacrer ces dernières minutes effectivement à quelques questions effectivement sur l'intervention de Sophie. Y a-t-il un micro ?
Oui, j'ai absolument pas compris les arguments qui peuvent justifier que ça soit pas en ligne.
Alors d'abord, pratiquement, ça se mélange avec comment différencier le web vivant de l'archive. Et ensuite, surtout, légalement, il y a une question de droit d'auteur et de protection des données personnelles.
Oui, mais enfin, ça a été public à un moment donné.
Oui, mais ça ne l'est potentiellement plus.
Oui, mais ça c'est un problème. C'était publié, n'importe quelle personne peut sauvegarder ça quelque part. Après, la question... C'est tout à fait bizarre, c'est complètement, je dirais, contraire à l'esprit du net et de la mise à disposition sans avoir à se déplacer dans des lieux. Je trouve ça extrêmement bizarre, ça me choque.
Bah, il faut d'abord compter, il y a un droit à l'oubli quand même. Et ensuite, nous commençons à collecter des contenus qui sont payants ou protégés. Et on peut, de manière évidente, pas les mettre à disposition. Des contenus qui sont payants sur le web vivant, nous ne pouvons pas les mettre à disposition gratuitement à tout le web vivant. Enfin, il y aurait forcément un problème. Non, C'est selon les mêmes règles que le reste du dépôt légal, en fait.
Si je peux me permettre d'intervenir, vous l'avez dit très clairement, c'est du dépôt légal. Mm-hmm. C'est la même chose qu'un livre. Si vous voulez l'avoir en libre disposition, vous l'achetez dans une librairie. Sinon, vous allez à la Bibliothèque nationale le consulter ou dans une BDLI. C'est pour ça que c'est tout à fait logique. Et c'est du dépôt légal, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que la Bibliothèque nationale derrière, mais plus que ce qu'il y a sur le net, puisque vous ne l'avez pas dit, mais c'est implicite, vous financez le robot de collecte, vous mettez des logiciels derrière pour pouvoir les rendre accessibles facilement, et vous les mettez à disposition de toutes les personnes qui viennent à la Bibliothèque nationale en demandant une accréditation de la même chose que pour les livres. C'est pas du tout le web en lui-même, c'est comme l'édition papier, c'est du dépôt légal.
Non, pas public, non.
c'est dans le cadre des missions de dépôt légal.
C'est pas du tir archivage, si vous voulez. Il y a des gens qui ont récupéré leur site grâce à nous, mais c'est du. Il faut qu'on s'assure de leurs droits. Il faut qu'on s'assure de leurs droits sur les publications. Et c'est un dialogue avec nous, mais ça se fait.
Ce qui fait que Internet Archive, par exemple, met en ligne des choses que la BnF, dans le cadre de l'Internet, ne peut pas mettre en ligne. En fait.
Mais Internet Archive marche sur le système de l'opt-out, c'est-à-dire quelqu'un qui dit « je ne veux pas que ce contenu que maintenant je ne reconnais absolument plus soit en ligne, je l'ai enlevé du web, je ne veux plus qu'il soit en ligne », Internet Archive l'enlève. C'est accessible.
Ce sera accessible.
Mais ce n'est pas Internet, c'est une archive de l'Internet.
C'est ce que les pouvoirs publics souhaitent conserver comme mémoire de l'Internet.
Ah, ça, c'est autre chose. On ne peut pas s'en occuper, non. C'est ce qu'on fait.
Si vous faites un plan en faisant des instantanés très régulièrement, mais très serrés pour un certain nombre de choses, parce que ce qui est particulièrement intéressant à mon avis, c'est l'évolution des idées, donc l'évolution des pages Internet, etc., d'un jour à l'autre. Donc ça, là, je connais que ce sera pas difficile, parce que c'est réservé aux chercheurs, pour lui, parce que le monde est assez...
Là, effectivement, c'était important de rappeler effectivement que la mission de la BnF, c'est le cadre du dépôt légal, qui doit prendre en compte donc effectivement ce qu'on a dit, effectivement les questions de propriété des données, les droits d'utilisation, les droits à l'oubli. Effectivement, vous savez, il y a beaucoup d'ouvrages qui sont parus, c'est d'Emmanuel Hogg, par exemple, sur le droit à l'oubli. C'est vrai que c'est quand même des données personnelles. On retrouve aussi les considérations des archivistes, hein, l'archivage du web d'ailleurs, hein, les délais de communicabilité par rapport aux archives publiques et aux archives personnelles. Donc c'est pour ça effectivement que c'est un cadre assez contraint, mais on n'empêche pas Internet Archive de faire le même travail, mais avec la limite que c'est un système d'opt-out et qu'il pourrait y avoir des procès, pas de la part de l'État, mais de la part de particuliers qui verraient effectivement des choses qu'ils ne veulent plus voir évoquées, l'être toujours par cette association.
Surtout, Internet Archive n'a pas vocation à archiver le web français.
Non.
Eux, ils prennent un exemple du web mondial, de moins en moins d'ailleurs. Et c'est un organisme indépendant. Donc si du jour au lendemain, ils décident que finalement, ça ne les intéresse plus et que tout cet espace de stockage, ils en ont besoin pour autre chose, ça disparaît.
Mais qui, pour l'instant, dans le cadre de la législation et de la réglementation, est obligé de le faire de façon cadrée. Mais effectivement, ça peut faire débat et le législateur peut revenir sur ces questions-là.
Alors, j'ai trois petites questions. Il y en a une qui est peut-être en lien avec ce que disait le monsieur. Alors, la première, peut-être, qui sera rapide, c'est par rapport aux visiteurs donc qui viennent consulter les archives. Est-ce que vous avez une information sur les profils? Est-ce que c'est des particuliers, des entreprises? Est-ce que vous avez une information à ce sujet-là?
Il y a une étude qui est sur le site de la BnF, qui a été assez poussée sur le public des archives web, qui est très intéressante. Je vous la conseille, elle est vraiment très bien. Et donc on a une idée, c'est le profil, a priori le profil de toute façon des chercheurs accrédités qui descendent, donc majeurs, surtout chercheurs scientifiques. Cependant, il y a des avocats aussi, pas mal, puisqu'il a été question d'utiliser les archives du web dans des cas dans des procédures judiciaires.
Ensuite, une question technique et puis une question aussi qui reviendra sur la... Alors je ne suis peut-être pas à jour, mais en début 2013, il devait y avoir une transformation de la loi concernant les archives nationales. Est-ce que vous êtes concerné? Et notamment, il était fait mention des incommunicables, donc de ces documents justement qui n'étaient pas accessibles au public, même si archivés. Les exemples un petit peu gros, c'était notamment en fait des sites ou des documents, parce que là on parlait des archives, c'était des documents qui parlaient par exemple de fabrication de bombes, bon c'est un exemple un peu gros mais qui parlait, et c'était une loi d'ailleurs notamment qui avait été modifiée sous la pression d'historiens, de chercheurs. Ça c'était la question en lien avec le monsieur. Et puis la petite question technique aussi, c'était est-ce que vous êtes concerné aussi d'une certaine façon par le désherbage comme les bibliothécaires, parce que là vous allez stocker des masses et des masses et des masses, quand est-ce que ça va s'arrêter
C'est une bonne question. Alors, pour revenir sur la première question, on n'est pas du tout concerné. Parce que on n'a rien à voir avec les. Malgré le terme d'archive, qui vient plus l'archive type OIS, enfin, quelque chose qui n'a rien à voir avec les archives nationales, par exemple. Donc, on n'est pas du tout concerné par ces lois-là. Nous, c'est vraiment le Code du patrimoine, titre 3, dépôt légal. Ce qui, du coup, a une conséquence sur le. Qui dit dépôt légal dit. Interdiction absolue et totale de supprimer les données. Donc c'est pour ça qu'on les fait rentrer dans SPAR, le système de préservation et d'archivage réparti, et qu'on étudie une possibilité de les conserver et d'y avoir accès sur le long terme, c'est-à-dire voir comment évoluent les formats, par exemple, parce que un des premiers Word, vous ne pouvez pas l'ouvrir avec un Word d'aujourd'hui. Donc s'il est dans les archives, il faut trouver une solution. Donc ça, c'est vraiment de la réflexion sur le très long terme, qui est longue à mener, qu'on n'a pas fini de mener parce que c'est vraiment compliqué. Pour l'instant, on conserve les données du mieux possible. Tout ce qui est émulation, migration, on verra ça après. Enfin, on est dessus, évidemment, on travaille. Pour l'instant, c'est pas fini. Mais de toute façon, on n'a absolument pas le droit de supprimer des données. Donc le désherbage ne nous concerne pas.